Qui c'est qui a déjà été amoureux? On peut lever la main. Vous avez le droit, je ne vous demanderai pas de qui, ne vous inquiétez pas. Qui c'est qui a déjà été amoureux? Si vous avez déjà été amoureux, rassurez-vous, c'est normal. Déjà, il n'y a pas de souci avec ça, c'est logique. Et en plus de ça, vous êtes dans la bonne soirée ce soir. Parce que je pense que l'amour, les sentiments amoureux font partie de la vie, font partie de ce qu'on est et de ce que Dieu a voulu pour nous. C'est pas mauvais d'être amoureux, bien entendu, on est d'accord. Et si son mari vient à mourir, il s'agit d'une femme qui est précédemment mariée. Si son mari vient à mourir, une femme est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition, bien entendu, que ce soit avec un chrétien. Si c'est le cas pour une femme qui était déjà mariée précédemment, de trouver un mari chrétien, c'est forcément le cas pour toute femme, tout homme qui se marie pour les premières noces. L'objectif de s'engager avec un chrétien. Après avoir réfléchi au type de relation que tu veux démarrer, pas du flirt mais des fréquentations, pour quelles raisons tu t'engages avec celui ou celle que tu aimes, la première question, la question la plus fondamentale qu'il faut se poser avant de démarrer une fréquentation, c'est est-ce qu'il est chrétien ou pas? Est-ce qu'elle est chrétienne ou pas? Et quand je parle de chrétien, je ne parle pas de fils d'eux ou d'enfants de chrétiens. Je parle d'un véritable et d'une véritable disciple de Christ qui aime le Seigneur, qui croit de tout son cœur dans l'œuvre de Christ. Si tu es chrétien, tu ne peux pas exiger moins que ça. Si tu exiges moins que ça, alors tu fais fausse route d'après la Bible. Partager la même foi, partager la même envie de s'engager spirituellement selon les dons, les capacités que le Seigneur nous donne aux uns aux autres. C'est le critère le plus fondamental à poser avant de choisir son futur ou sa future. Et la Bible est très claire sur ce sujet. Et pourquoi cette restriction finalement? Pourquoi Dieu nous demande de forcément trouver une âme sœur qui soit chrétienne? Et bien, tout simplement parce que je crois que c'est difficile, très difficile, voire impossible d'être unis, de fonder une relation lorsqu'on n'a pas les mêmes objectifs dans la vie. Et c'est la raison principale de ce commandement. Pour vivre une vie unie d'hommes et femmes mariés, on a besoin d'avoir des valeurs communes. On a besoin de que ces valeurs soient dans tous les domaines. Aussi bien dans mon faire baptiser 2 mois avant. Je me suis baptisé en mai 96, en juillet 96, je rencontrais Manu. Elle était baptisée depuis un peu plus longtemps, elle s'est baptisée à 14 ans, donc ça faisait 3-4 ans qu'elle était déjà baptisée. 500 km nous séparaient, ça peut paraître peu, beaucoup à la fois, surtout à une époque, hein, je vous rappelle, on était des tournées dinosaures. À l'époque, il n'y avait pas tous les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui. À l'époque, c'était je t'envoie une lettre par pigeon voyageur, ça revient au bout d'une semaine. À l'époque, c'était le téléphone qui coûte de l'argent, donc papa et maman qui ne veulent pas qu'on téléphone trop, parce que quand même, donc une petite demi-heure de téléphone. Imaginez-vous, hein, une demi-heure de téléphone. Qui c'est qui a déjà été amoureux? Qui c'est qui a déjà été amoureux? On peut lever la main. Vous avez le droit, je ne vous demanderai pas de qui, ne vous inquiétez pas. Qui c'est qui a déjà été amoureux? Si vous avez déjà été amoureux, rassurez-vous, c'est normal. Déjà, il n'y a pas de souci avec ça, c'est logique. Et en plus de ça, vous êtes dans la bonne soirée ce soir. Parce que je pense que l'amour, les sentiments amoureux, font partie de la vie, font partie de ce qu'on est et de ce que Dieu a voulu pour nous. C'est pas mauvais d'être amoureux, bien entendu, on est d'accord. Et c'est quelque chose que Dieu nous a créé comme ça, avec ce sentiment, avec ce désir d'être aimé, d'aimer. Et donc, on veut prendre le temps, comme Laure l'a dit, d'avoir 3 temps ce soir. Un premier temps où on va essayer de se poser les bonnes questions avant de démarrer une fréquentation. Trouver l'amour comment? Aujourd'hui, dans notre société, dans vos potes, copines de fac, de lycée, il y a plein de manières qui sont avancées pour la bonne manière de trouver l'amour. Et qu'est-ce que la Bible a à dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui est, du point de vue de Dieu, la bonne manière de trouver l'amour? Ensuite, un deuxième temps de questions, quelques questions sur une fois qu'on a démarré une fréquentation, que tous les feux sont verts, on va dire, en tant que chrétien, quelles sont les bonnes questions à se poser pour confirmer l'amour et envisager le mariage. Et un dernier temps, donc, où on se séparera, parce que c'est toujours plus simple, ça permet, je pense, les uns et les autres de plus facilement parler et discuter avec les filles qui resteront avec Manu, donc, et puis les gars, je ne sais pas où on ira, on verra bien, avec moi, mais pour avoir un temps de questions. Et merci, il y en a quelques-uns qui ont déjà posé des questions via, je crois que c'est un numéro de téléphone, si j'ai bien compris, que vous envoyez un texto. Donc, on a quelques questions auxquelles on répondra, et puis s'il y en a d'autres, ou si le sujet de ce soir en donne d'autres, ben, on les traitera tous ensemble. Alors, j'ai bien conscience qu'en venant ici, il y a un décalage. Il y a un décalage, pourquoi ? Ben, parce qu'avec Manu, je suis désolé, chérie, je vais devoir dire ton âge, on a fêté nos 40 ans l'an dernier. Ouh là, ça fait mal. 1978, notre date de naissance. Ah, ça fait... Ouf. Qu'on est mariés, donc, depuis 2001. Pardon, 17 ans, voilà. Qu'on a 3 enfants, donc forcément, on a... pas du tout la même vie que vous pouvez avoir, vous, aujourd'hui, en tant qu'étudiant, jeune travailleur, lycéen, je ne sais quoi, par rapport à ce qu'on vit, nous, aujourd'hui, une vie de famille. Mais pour un peu réduire ce fossé générationnel qui peut nous séparer, je voudrais juste revenir à quelques années avant. Avec Manu, on s'est rencontrés, alors qu'on était animateur de colonie, tous les deux, à 18 ans. Je venais de me faire baptiser 2 mois avant. Je me suis fait baptiser en mai 96. En juillet 96, je rencontrais Manu. Elle était baptisée depuis un peu plus longtemps. Elle s'est baptisée à 14 ans, donc ça faisait 3-4 ans qu'elle était déjà baptisée. 500 km nous séparaient. Ça peut paraître peu, beaucoup à la fois, surtout à une époque, hein, je vous rappelle, on était des tournées dinosaures. Hein. À l'époque, il n'y avait pas tous les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui. À l'époque, c'était « je t'envoie une lettre par pigeon voyageur, ça revient au bout d'une semaine ». À l'époque, c'était « le téléphone qui coûte de l'argent », donc papa et maman qui ne veulent pas qu'on téléphone trop, parce que quand même, donc une petite demi-heure de téléphone. Imaginez-vous, hein, une demi-heure de téléphone par semaine maximum. Donc, il y avait une séparation et c'était compliqué. En plus, on avait des familles qui ne voyaient pas forcément... d'un très bon œil notre fréquentation. Pourquoi ? Pas parce que Manu n'était pas bien, moi j'étais pas bien, mais simplement moi je suis le petit dernier dans ma famille, et quand mes parents ont vu le petit dernier qui commençait à fréquenter à 18 ans déjà, alors que les deux aînés avaient démarré beaucoup plus tard ce genre de choses, ils se sont dit « ouh, qu'est-ce qu'il fait ?» Et Manu, elle, c'est l'aîné de sa famille, et pareil de son côté, ses parents n'avaient jamais été encore confrontés à ça, donc c'était l'aîné, à 18 ans, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Et puis, 18 ans, ben, 500 bornes de séparation géographique, il n'y a pas forcément de perspective immédiate, de quelque chose de plus posé, de perspective de mariage, tout simplement. Je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Comment ça va se passer ? Il faut avouer aussi qu'à cette époque-là, on n'avait pas forcément beaucoup de références, de personnes qui pouvaient nous conseiller de la bonne manière, qui pouvaient nous aider dans cette situation-là. Parce que ben, c'était ainsi. Et c'est quelque chose qui nous a toujours pesé avec Manu, et c'est pour ça que je leur disais qu'on a suivi beaucoup de couples, qu'on a fait beaucoup de préparation de mariage, qu'on gère un groupe de jeunes couples, qu'on fait beaucoup de choses dans ce sens-là, parce qu'il nous semble que c'est quelque chose vraiment d'essentiel et d'important, et sur lequel la Bible a des choses à dire, et qui nous semble vraiment essentiel. Trouver l'amour comment ? Notre première... Qu'est-ce que j'ai fait de mon truc, moi, déjà, là ? Trouver l'amour comment ? Notre... Pardon ? Ça marche mieux comme ça, peut-être ? Non ? Voilà. Trouver l'amour comment ? Notre première partie. Alors, je vous disais, la société nous propose plein de moyens de trouver l'amour. Je vous en cite 3. Je vous en conseille aucun. Mais je vous en cite 3 quand même. D'abord, on peut poser une annonce. Passer une annonce. Peut-être sur un site internet, dans un journal, je ne sais quoi. Il y en a qui sont assez originales, comme celle-ci, véridique. Hein. Celle-ci, vous écoutez bien. Hein. Jeune homme, très bien. Bon, ça commence bien. Sous tout rapport. Désir rencontrer en vue de mariage. Il veut s'engager, ce garçon. Jeune fille possédant tracteur. Envoyez la photo du tracteur. Ah, c'est incroyable, c'est vrai. Hein. Le gars, il a vraiment envoyé ça. Une autre façon de faire aujourd'hui qui est un peu dans les mœurs depuis quelques temps, c'est le speed dating. Où en 5 minutes, tu es censé connaître l'autre suffisamment bien pour te dire c'est bon, c'est la bonne personne. C'est celui, celle qu'il me faut. Et pour être rapide, c'est du rapide, ça c'est clair. Et dans une société où on veut zapper, où on veut aller vite, oui, c'est vrai, ça va vite. Mais est-ce que c'est sûr ? Est-ce que c'est une bonne manière ? Ça c'est beaucoup moins certain. Et la dernière, la plus commune aujourd'hui, hein, clairement, c'est qu'on repère quelqu'un qui nous plaît, on voit si sexuellement on fait l'affaire ensemble, on vit à la colle pendant un certain temps, on a peut-être un ou deux gamins, et plus tard, beaucoup plus tard, on envisage peut-être, dans le meilleur des cas, de se marier et de construire quelque chose, quoi. Si t'es chrétien, je crois qu'aucune de ces méthodes ne peut te convenir. Mais alors comment faire? Comment trouver l'amour? Quelles sont les bonnes questions à se poser? Comment connaître la volonté de Dieu par rapport à ce garçon, cette fille qui me plaît? Par rapport à notre relation peut-être aussi. Alors je préfère vous dire tout de suite, désolé, je vais boum, je ne vais pas avoir de formule magique à vous proposer ce soir pour vous dire oui, c'est lui, c'est certain. Pour vous dire c'est elle, c'est sûr, ça fit tes rêves et elle va faire ton bonheur toute ta vie. Non, il n'y a pas de formule magique qui existe pour découvrir la volonté de Dieu par rapport à cela. Et je n'ai pas de révélation particulière pour vous dire c'est lui ou c'est elle, pas du tout. Mais je pense qu'il y a quelques questions qu'on doit se poser avant de démarrer une fréquentation et quelques autres questions qu'on doit se poser quand on fréquente quelqu'un pour être sûr que c'est la bonne personne, pour confirmer les choses. Et la première question que je pense qu'il faut se poser, c'est déjà quel type de relation, avant de démarrer une fréquentation, c'est quel type de relation est-ce que tu envisages? Et ce verset de Hébreux 3, verset 4 qui nous dit, de façon symbolique, « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Aujourd'hui, la mode, c'est le flirt. Qu'est-ce qu'il y a comme connotation derrière ce mot, derrière le flirt? Qu'est-ce que vous me direz? C'est quoi la connotation qui ressort derrière le flirt? C'est à vous là, hein, si vous n'êtes pas... Non, je ne vais pas que causer moi, parce que c'est un peu moins rigolo. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a comme notion derrière le flirt? Séduction, ouais.
S'amuser,
ouais.
Plaire, ouais,
chercher à plaire, ouais. C'est temporaire, c'est pour long?
Pas d'engagement,
ouais.
C'est éphémère,
temporaire, tout à fait. Occasionnel. C'est un jeu, on l'a dit. Ça n'a pas vraiment de but, quoi. Le dictionnaire définit flirter comme avoir des relations sentimentales superficielles. Avoir des relations sentimentales superficielles. Et bien, je pense que ça ne va pas vous étonner. Ce n'est pas du tout le type de relation que la Bible envisage. Des relations sentimentales superficielles entre un gars et une fille. La Bible ne connaît rien du flirt. Sans lendemain, le plaisir égoïste de prendre un gars, une fille, pour profiter de lui ou d'elle, pour un temps et après de le jeter comme un vulgaire mouchoir en papier. Non, la Bible ne connaît rien de ça. Par contre, la Bible évoque quelque chose d'autre que le flirt, et on l'a évoqué tout à l'heure, ce qu'on appellerait peut-être les fréquentations en tout cas, c'est-à-dire en tout cas de nouer une relation avec quelqu'un avec une intention. L'intention, c'est là où ce verset est important, l'intention de construire quelque chose avec lui, avec elle. L'intention de construire quelque chose de solide, de durable, et de le construire, bien entendu, en impliquant Dieu. Parce que celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Et celui qui construit nos relations, c'est Dieu. Et celui qui construira ta relation avec ton futur, ou ta future promise, c'est Dieu, encore une fois. Et le but de cette relation, c'est d'un jour envisager le mariage. Alors attention, ça va peut-être te choquer, mais si on démarre une fréquentation, ton but n'est pas le mariage. Alors pas forcément dans les deux semaines à venir. Hein. Encore une fois, on avait 18 ans, même lui et moi, quand on s'est rencontrés. On s'est mariés 5 ans plus tard. Pas forcément dans les deux semaines à venir, mais plutôt à terme. Si ton but n'est pas le mariage quand tu démarres une fréquentation, alors devant Dieu, tu as déjà tout faux. Si quand tu démarres une fréquentation, tu n'as pas cet objectif-là, ce désir-là au fond de ton cœur de construire quelque chose en vue du mariage, tu as déjà tout faux. Et c'est une première question à te poser. Quel type de relation est-ce que tu envisages en tant que chrétien? Si tu envisages autre chose qu'une relation dans le but de construire en vue du mariage, alors tu te plantes en tant que chrétien. Autre question à se poser, importante. Pour quelle raison est-ce que tu veux démarrer une fréquentation? Proverbe 5, verset 18 nous dit « Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. » Si on réfléchit un peu, il y a plein de mauvaises raisons pour lesquelles on peut démarrer une fréquentation. une relation avec quelqu'un. Lesquelles d'après vous? Quelles pourraient être ces mauvaises raisons? Quelles pourraient être ces mauvaises raisons pour démarrer une fréquentation? Moi, je suis sûr que vous avez l'imagination. Ouais. Parce que tout le monde le fait, ouais. Pour ne pas paraître différent. Clairement, tu as raison, Kelly. D'autres? Vous n'êtes pas obligé de lever la main, hein. Vous pouvez...
Parce que l'âge avance.
Ouais, tout à fait. Parce que l'âge avance. Et souvent, souvent, malheureusement, de mon expérience, c'est quand l'âge avance et qu'on est seul... On fait souvent les plus mauvais choix, le pire choix, parce qu'on a peur, peur d'être, de se retrouver célibataire à vie, entre guillemets. Ouais, ça c'est aussi une mauvaise raison pour laquelle on peut démarrer. On va faire comme les autres, par crainte de voir qu'on n'a toujours pas trouvé son âme sœur. Par convoitise aussi, simplement. Simplement pour avoir une reine de beauté ou le gars hyper musclé. Mais par convoitise, c'est aussi une très mauvaise raison. Par égoïsme. Pour avoir quelqu'un qui s'occupe de moi, qui réponde à mes besoins, qui soit là pour moi. Ça aussi, c'est une mauvaise raison. Ou pour se la jouer. Moi, j'ai plein de copines, j'ai plein de copains. C'est tout un tas de mauvaises raisons pour lesquelles on peut démarrer une fréquentation. Et toutes ces raisons sont mauvaises. Et la seule et unique raison qui doit te pousser à démarrer une fréquentation, fais ta joie de la femme que tu as aimée. Ta jeunesse. C'est un véritable amour qui doit te pousser à démarrer une fréquentation, une relation, et pas un autre sentiment ou une autre raison que celle-ci. Et si tu n'as pas ce véritable amour dans le cœur, cette envie de construire, alors tu fais fausse route dans le fait de démarrer une fréquentation. Et c'est des questions importantes à se poser. Troisième question à se poser. Est-ce que tu t'engages avec un chrétien ? 1 Corinthiens 16, verset 39 nous dit « Si son mari vient à mourir » il s'agit d'une femme qui était précédemment un mari. « Si son mari vient à mourir, une femme est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition, bien entendu, que ce soit avec un chrétien. » Si c'est le cas pour une femme qui était déjà mariée précédemment, de trouver un mari chrétien, c'est forcément le cas pour toute femme, tout homme qui se marie pour les premières noces. L'objectif de s'engager avec un chrétien. Après avoir réfléchi au type de relation que tu veux démarrer, pas du flirt mais des fréquentations, pour quelles raisons tu t'engages avec celui ou celle que tu aimes, la première question, la question la plus fondamentale qu'il faut se poser avant de démarrer une fréquentation, c'est est-ce qu'il est chrétien ou pas ? Est-ce qu'elle est chrétienne ? Et quand je parle de chrétien, je ne parle pas de fils d'eux ou d'enfant de chrétiens. Je parle d'un véritable, d'une véritable disciple de Christ qui aime le Seigneur, qui croit de tout son cœur dans l'œuvre de Christ. Si tu es chrétien, tu ne peux pas exiger moins que ça. Si tu exiges moins que ça, alors tu fais fausse route d'après la Bible. Partager la même foi. Partager la même envie de s'engager spirituellement selon les dons, les capacités que le Seigneur nous donne aux uns aux autres. C'est le critère le plus fondamental à poser avant de choisir son futur ou sa future. Et la Bible est très claire sur ce sujet. Et pourquoi cette restriction finalement ? Pourquoi Dieu nous demande de forcément trouver une âme sœur qui soit chrétienne ? Et bien, tout simplement parce que je crois que c'est difficile, très difficile, voire impossible d'être unis, de fonder une relation lorsqu'on n'a pas les mêmes objectifs dans la vie. Et c'est la raison principale de ce commandement. Pour vivre une vie unie d'hommes et femmes mariés, on a besoin d'avoir des valeurs communes. On a besoin de que ces valeurs soient dans tous les domaines. Aussi bien dans les loisirs, dans la façon d'utiliser l'argent, dans la moralité, dans la façon d'éduquer les enfants plus tard, dans la place qu'a l'Église dans nos vies. Et si on n'est pas d'équerre là-dessus, ben ça promet beaucoup de grabuge par la suite. Si dès le départ, vous avez un point de vue complètement différent de l'autre sur ces points-là, le fait de qu'est-ce que change la vie chrétienne dans ma vie, ben vous allez vous planter. Dieu nous demande clairement de ne pas fréquenter un non-chrétien et il ne fait aucune concession dans ce domaine. Pourtant, il t'arrivera, il m'est arrivé à plusieurs occasions de trouver de bonnes excuses, d'entendre de bonnes excuses. Les excuses que j'ai déjà entendues. Il se convertira. T'inquiète pas, ça va le faire. Je prie tellement qu'il va se convertir. Peut-être. Mais peut-être pas. Parce que c'est pas toi qui peux le convertir. Tu peux prier pour lui, mais c'est pas toi qui peux le convertir. Tu n'en es pas capable. C'est arrivé, c'est vrai. Mais est-ce que parce qu'il y a des exemples, peu d'exemples dans ce sens-là, il faut forcément aller dans ce sens-là? C'est pas le genre de chose sur lequel il faut compter. Et selon moi, c'est ce que je conseille toujours quand quelqu'un vient me voir en disant « Oui, j'ai des sentiments par rapport à quelqu'un qui n'est pas chrétien. » Je lui dis deux choses. La première chose que je lui dis, c'est que ce gars-là ou cette fille-là, elle n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi. Il a besoin de Dieu, d'abord et avant toute chose. Alors, confronte-le à Dieu et vois ce qui va se passer. Et si il se convertit, peut-être alors tu pourras envisager quelque chose avec lui ou avec elle. Et encore, ce n'est même pas sûr, parce que les plans de Dieu sont différents. Mais rendez-vous bien compte, si vous aimez quelqu'un qui n'est pas chrétien, il n'a pas besoin de votre amour, il a besoin de l'amour du Seigneur avant toute chose. Et c'est essentiel de bien le poser, ces choses-là. D'autres excuses, c'est du style « je serai libre de vivre ma foi ». Il n'a pas de problème avec la foi chrétienne, je pourrais vivre ma foi, pas de problème, il me laissera aller à l'église, il me laissera faire mes activités, tout ça, il me laissera prier, pas de problème. Peut-être, ça peut arriver. Mais le plus souvent, de ce que j'ai pu voir à travers les années, c'est que malheureusement, ce n'est pas le chrétien qui entraîne le non-chrétien dans le bon sens. Malheureusement, c'est plutôt l'inverse. À un moment donné, on est confronté à des choix de vie. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche matin? Il y a une sortie ski, là, en ce moment, par exemple. Ben, on va aller à la sortie ski, plutôt. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, le « je serai libre de vivre ma foi », ce n'est pas une bonne excuse non plus. Dernière excuse qui m'est déjà arrivée d'entendre, c'est « ça ne change rien, croyant ou pas croyant, chrétien ou pas chrétien ». Alors là, si tu crois cela, c'est que tu n'as rien compris à ce que c'est d'être chrétien. Tu n'as rien compris à l'évangile. Parce qu'au contraire, ça change tout. Ça change tout. Nos valeurs, nos façons de voir la vie, nos objectifs, nos priorités changent en tant que chrétien. S'ils ne changent pas, c'est qu'il y a un problème. Franchement, il ne faut pas se donner de prétexte. On ne peut pas être sûr que celui ou celle qu'on aime se convertira. C'est impossible de le savoir. Le plus simple, c'est de ne pas fréquenter une personne non chrétienne. Alors c'est sûr, hein, ça réduit beaucoup, mais beaucoup, mais beaucoup, les possibilités. Je vais vous dire quelque chose d'important. Ça réduit surtout toutes les mauvaises possibilités. Ça réduit les mauvaises possibilités. Autre question à se poser. Est-ce que tu es prêt à attendre ? Cantique des Cantiques 2, verset 7, le livre par excellence pour les amoureux. N'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Quand tu démarres une fréquentation, il se peut que tu pars pour un très long temps de fréquentation avant d'envisager enfin de pouvoir se marier, de pouvoir avoir une vie commune. Parce que les études se rallongent, parce que les situations ne sont pas forcément évidentes. Et je vous l'ai dit, nous avec Manu, on a eu le 5 ans de fréquentation. Je vous conseille pas forcément d'avoir 50 fréquentations, c'est pas évident, c'est pas simple. On était 3 ans avec la distance géographique, 2 ans sur cette ville de Grenoble avant de pouvoir se marier. Mais faut avoir conscience de ça, c'est que ça peut être long ce temps de fréquentation. Est-ce que tu sauras, est-ce que elle saura ou il saura attendre ce temps-là? C'est une question à se poser aussi. Il faut que tu sois certain d'être capable d'attendre le temps qu'il faudra pour envisager sereinement le mariage. Selon ton âge, selon son âge, à lui ou à elle, bien sûr. Et ça revient donc à se demander, est-ce que tu l'aimes assez pour attendre ? Est-ce que tu l'aimes assez pour attendre ? En 2009, en Allemagne, Mika, 6 ans, et Anna-Lena, 7 ans. 6 ans et 7 ans. Très amoureux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces deux morveux? Ont fugué le jour de l'an avec la ferme intention de se marier en Afrique. Faut avoir l'imagination, hein, si c'est 7 ans. Pardon. Je vois ma Liane qui a 6 ans, là, si elle me fait un coup parler, je sais pas ce que je lui fais. Tôt le matin, ils ont quitté leur domicile pour rejoindre la gare centrale de Hanovre, la ville où ils habitaient, située à 4 km de là. Ils ont fait 4 bornes quand même, les moments. Ils ont vite attiré l'attention du personnel qui a prévenu la police, qui a réussi à les convaincre, tous les deux, de rentrer chez eux quand même. Ils sont bien, ces policiers. Le porte-parole de la police, en revenant sur cette drôle d'affaire, a conclu en disant « Ils pourront toujours réaliser leur projet plus tard. » Ce que je veux dire à travers cette petite histoire véridique, hein, c'est que dans certains cas, et je sais que c'est pas évident ce que je vais vous dire, et on l'a pas fait avec Manu, il vaut peut-être parfois mieux attendre plutôt que de devoir se projeter dans une fréquentation directement sans voir la possibilité d'envisager quelque chose de sérieux dans les prochaines années. Et c'est pas, et je vous dis, on n'a pas fait avec Manu, donc je suis pas là pour vous donner un exemple par rapport à ça, mais peut-être que dans certains cas dans vos vies, parce que c'est une tranche de vie particulière, bah, il faut savoir attendre aussi, patienter par rapport à ces choses-là. C'est pas forcément simple, hein, je le sais bien, mais c'est en tout cas, ça témoigne, je pense, de la sagesse et aussi d'un réel amour pour l'autre. D'être capable d'attendre l'autre, d'une certaine manière, ça témoigne déjà de l'amour que vous portez à celui et celle que vous aimez. Dernière question pour cette partie. Est-ce que tu le trouves attrayant ? Proverbe 5, verset 19 nous dit que ses charmes t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris de son amour. Alors il paraît que, ça j'ai pas pu le vérifier, mais il paraît que dans un institut biblique, mais je veux bien le croire, hein, une jeune fille plutôt mignonne faisait sa rentrée avec les autres étudiants. Avant la fin de la journée, trois gars, plus spirituels les uns que les autres, parce qu'on est tous très spirituels, les gars, étaient venus lui dire que c'était la volonté de Dieu qu'il se marie avec elle. C'est chouette ça. C'est chouette. Mais je suis à peu près sûr que c'est vrai, quoi. Et à l'inverse, dans le milieu chrétien, il peut aussi arriver qu'on tombe sur des personnes qui disent que, sous le couvert d'une très grande spiritualité, qui disent que l'attrait n'a pas d'importance. C'est pas grave, t'as pas besoin d'être attiré par l'autre, t'as pas besoin de trouver la personne attrayante. C'est pas grave ça, faut être spirituel, très spirituel. Je suis pas d'accord avec ça. D'abord, je suis pas d'accord parce que je ne crois pas que Dieu veuille nous donner un conjoint chez qui on ne trouverait aucun attrait. Dieu nous aime et sait comment nous sommes. Il sait ce que nous avons besoin. Il veut notre bonheur. Et ça m'étonnerait qu'un Dieu qui veut notre bonheur, il nous offre un conjoint où on n'a aucun attrait. Alors, peut-être que l'attrait peut être minime au départ. Il grandit aussi avec les années, n'est-ce pas, chérie? Non, mais ça n'a rien. Tu sais pas. Mais en tout cas, si vous voulez, je pense que c'est aussi une question importante. Est-ce qu'il y a de l'attrait? Ensuite, même si c'est vrai que l'attrait en lui-même seul, le fait simplement d'être attiré par une personne à cause de son physique, à cause de sa manière d'être, n'est pas suffisant. On est d'accord, c'est pas suffisant pour s'engager avec l'autre. C'est quand même important. Parce que si tu n'es pas un minimum attiré par l'autre, si tu n'as pas cette petite lumière un peu qui brille dans tes yeux quand tu l'as ou le vois, alors je crois qu'il y a quelque chose qui manque. Et alors que tu penses peut-être démarrer une fréquentation, pose-toi ces quelques questions par rapport à cet attrait, justement. Est-ce que tu es déjà simplement heureux d'être avec lui ou d'être avec elle? Si après seulement quelques mois, tu préfères être avec d'autres copains et copines, alors vaut mieux arrêter là. C'est que tu n'es pas attiré par elle. Il n'y a pas d'attrait entre vous. Est-ce que tu es capable de discuter de longues heures de tout type de sujets, de discussions ensemble? Si tu t'ennuies avec lui, avec elle déjà maintenant, au début de votre relation, qu'est-ce que ça va être ensuite? N'oublie pas que tu vas passer toute ta vie avec lui, avec elle. Comme je vous disais avec Manu, au début de notre relation, on était séparés par géographiquement. Donc on s'envoyait des lettres par pigeon voyageur et toute cette histoire. Mais ça nous a appris à nous connaître d'une manière différente et ça a été très utile. Et pourquoi finalement au départ, dans cette histoire, je suis tombé amoureux de Manu en premier et puis elle m'a jeté deux fois. Comme quoi, voilà. C'est qu'au début, on parlait beaucoup ensemble. On avait beaucoup d'atomes crochus, de discussions. de joie à être ensemble. Mais il y a cet aspect-là. Posez-vous les questions avant de démarrer une fréquentation. Est-ce que je suis vraiment, est-ce que j'ai de l'attrait? Pas simplement l'attrait physique, même si c'est important, bien entendu. Mais les atomes crochus dans les discussions, dans les sujets de vie de tous les jours. Ça, c'est important aussi. Confirmer l'amour, pourquoi ou vers quoi? Vers le mariage. Imaginons que toi et l'élu de ton cœur, le gars ou la fille de ton cœur, vous ayez répondu à ces 5 questions précédentes par oui, positivement. Vous démarrez donc une fréquentation ensemble. Quelles sont maintenant les bonnes questions à se poser pour confirmer votre amour? Et je te propose là aussi 5 questions à te poser, à vous poser ensemble. Première question. Est-ce que tu t'engages complètement? Cantique des Cantiques qui nous dit « Mon bien-aimé, il est à moi et moi, je suis à lui. » Démarrer une fréquentation n'est pas neutre. Démarrer une fréquentation n'est pas neutre. Il y a un avant et un après. Avant, je suis seul. Après, je suis en couple. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas un avant et un après, c'est qu'il y a un problème. Avant, tu étais célibataire, maintenant tu es en couple. Et donc, tu es engagé, même si tu n'es pas encore marié. Que tu le veuilles ou non, tu t'engages avec celui ou celle que tu fréquentes devant Dieu. Mais dans quel sens? Dans le même sens que le mariage? Pas tout à fait. Quand tu démarres une fréquentation avec quelqu'un, tu es engagé dans l'objectif. Engagé dans l'objectif. L'objectif d'être fidèle l'un à l'autre, de se respecter l'un l'autre, mettre tout en œuvre pour voir si on est fait l'un pour l'autre. Le but n'est pas simplement de sortir, comme on l'a vu, hein, pour un flirt, pour se faire plaisir, simplement, enfin, un plaisir égoïste, hein, mais de construire une relation solide pour envisager un jour le mariage, et cela te demande un engagement total. Je veux dire, si tu veux un jour envisager le mariage, tu t'engages totalement envers l'autre, à l'aimer, à le respecter et à mettre tout en œuvre pour savoir si vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc dans l'objectif du mariage, tu t'engages avec celui ou celle que tu fréquentes. Par contre, tu n'es pas engagé dans le résultat. C'est-à-dire, tu peux te rendre compte, après avoir démarré une fréquentation, que finalement, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Est-ce que c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Non, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas la même chose après le mariage. D'accord. Mais pendant une fréquentation, ce n'est pas un péché. On peut démarrer une fréquentation, se rendre compte qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, malgré qu'on avait le même objectif à la base, et rompre cette relation. Et ce n'est pas un péché. C'est dur, sentimentalement, personnellement, bien sûr. Cela peut donner un sentiment d'échec. Oui. Mais ce n'est en aucun cas un péché. Maintenant, il faut aussi être clair. Celui ou celle qui vient de dire qu'en 6 mois, il a rompu déjà 3 fois, il n'est pas sérieux. Il n'est pas dans l'engagement. Il cherche juste à collectionner, ça ne veut rien dire du tout. On est d'accord? Mais tu peux démarrer des fréquentations de manière sérieuse avec, en t'engageant sur l'objectif d'essayer en vue du mariage et de se rendre compte que ce n'est pas le cas. Et il vaut mieux se rendre compte avant d'être marié qu'après. Et là encore, j'ai des exemples de personnes qui n'ont pas osé, entre guillemets, rompre l'engagement l'un envers l'autre avant le mariage. C'est une erreur. Deuxième question à poser quand tu fréquentes. Est-ce que tu es en paix? Philippiens 4, verset 7. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Est-ce que tu vis cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence? Prends le temps de réfléchir tout simplement aux effets de cette fréquentation sur toi. Est-ce que tu es anxieux, mal à l'aise? Ou bien est-ce que tu es en paix par rapport à cette fréquentation? D'abord, est-ce que tu es en paix par rapport à cette fréquentation vis-à-vis de Dieu? Quand tu pries Dieu, j'espère que tu pries Dieu sur ce sujet, il ne manquerait plus que ça. Quels sont les sentiments qui t'habitent? Est-ce que tu es en paix vis-à-vis de Dieu par rapport à cette fréquentation ou pas? Peut-être que tu n'oses même pas prier pour cette fréquentation devant Dieu. Et ça, c'est déjà un mauvais signe, clairement. Tu n'oses pas prier devant Dieu pour cette relation parce que tu sais pertinemment qu'il y a quelque chose qui cloche. La prière est puissante et Dieu est attentif à nos prières, surtout sur un sujet aussi essentiel que celui-ci. Parce que la question essentielle de votre vie, c'est est-ce que vous croyez en Dieu? La deuxième question la plus essentielle de toute votre vie, c'est avec qui vous passerez le reste de votre vie. Qui sera votre conjoint? Parce que ça touchera toute votre vie par la suite. Donc sur un sujet aussi important, ne croyez pas que Dieu puisse être indifférent. C'est impossible. Il n'est pas indifférent sur un sujet aussi important dans nos vies. Deuxième chose, est-ce que tu es en paix vis-à-vis de celui ou de celle que tu fréquentes? Est-ce que tu as une entière confiance en lui ou en elle? On avait 500 bornes d'écart avec Manu. Si on n'avait pas eu confiance l'un envers l'autre, on n'aurait pas tenu 6 mois. C'était impossible. Est-ce que tu as des doutes encore sur son amour pour toi? Est-ce que tu lui apportes suffisamment de preuves de ton amour à toi? Si tu n'es pas sûr de tes sentiments ou de ses sentiments envers toi, alors il y a un problème à régler aussi. Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tes proches vous voient bien ensemble? Proverbe 24, verset 6. Le succès tient au grand nombre de conseillers. Alors, même si c'est ton avis personnel qui est le plus important, tu ne vas pas te marier avec quelqu'un dont tout le monde te dit c'est bon, tu peux te marier avec elle. Non, ton avis personnel qui est le plus important, on est d'accord. Et qui doit primer. Parce que c'est d'abord ton choix et c'est toi qui vas vivre les choses. Il est aussi important, je crois, d'avoir une écoute par rapport à ceux qui nous entourent, nos amis, nos familles. On pense souvent à ses parents dans ce genre de cas. Et c'est vrai que ça peut être important d'écouter ses parents. Mais ce n'est pas toujours forcément le meilleur avis parce qu'ils peuvent être fluctuants, dirigés par des arrière-pensées. Pour vous dire, au tout début, je vous ai raconté que quand j'ai annoncé à mes parents, à ma maman notamment, ça n'a pas été une partie de plaisir. Je me souviens très bien que j'avais montré une photo de Manu et qu'elle m'a dit, ma maman est très vieille génération, Manu avait un peu de maquillage sur cette photo-là. Elle m'a dit, ah non, mais ça ne va pas mon fils. Deux ans plus tard, on était à deux doigts de passer avec Manu. Pourquoi? Parce que la distance était difficile. On avait chacun des vies bien remplies de nos côtés. Et c'était compliqué cette distance-là. Quand j'ai commencé à en parler à ma mère, la même personne qui m'avait dit elle m'a dit, mais mon fils, n'importe quoi! Elle avait changé complètement d'avis. Ce que je veux dire, c'est que la vie peut changer. Et que c'est, je pense que ce proverbe-là est intéressant à utiliser. Le succès tient au grand nombre de conseillers. Écoutez les uns les autres. Écoutez vos amis, écoutez votre famille, écoutez vos parents, bien sûr. Mais êtes à l'écoute de ça. N'hésitez pas à demander l'avis de plusieurs. Faire attention à comment ta famille, comment tes amis regardent ta relation, parlent de ta relation. Ce sont autant de signes qui peuvent confirmer les choses ou pas. Et c'est important de faire attention à ces signes. Quatrième idée. Est-ce que vous êtes complémentaires? Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Écrit à la femme. Augustin écrit. Si l'intention de Dieu avait été que la femme domine l'homme, il aurait pris de la tête de l'homme. S'il avait souhaité qu'elle soit son esclave, il aurait pris de ses pieds. Mais Dieu prit la femme de son côté, d'une côte de l'homme, car il l'a fait semblable à lui et lui ordonna qu'elle soit la collaboratrice idéale. Dieu a créé l'homme et la femme en sorte qu'ils soient complémentaires, des vis-à-vis l'un pour l'autre. Et tu dois aussi honnêtement, dans cette période de fréquentation, chercher à tester ton degré de complémentarité avec celui avec ça que tu aimes. Si on peut constater l'apparence d'une personne très rapidement, en quelques minutes, pour lire son cœur, pour lire ses habitudes, sa façon de vivre, il faut beaucoup plus de temps. Et il y a quelques erreurs à ne pas commettre là aussi, pour estimer le degré de complémentarité qu'on peut avoir avec l'autre. D'abord, l'erreur d'idéaliser l'autre. Ça, c'est très souvent le cas au tout début d'une relation. On ne voit que ce qui est beau chez l'autre. On idéalise l'autre. Et c'est normal, c'est l'amour qui est comme ça. Et peu à peu, on se rend compte, bah ouais, l'autre aussi a ses défauts, l'autre aussi, mais comme chacun d'entre nous, hein, on est d'accord. Mais ne pas idéaliser l'autre, ne pas croire qu'il est parfait ou qu'elle est parfaite. Ne pas vouloir changer l'autre. La Bible nous demande de changer. Elle ne nous demande pas de changer l'autre. On ne peut pas changer l'autre. Donc ne pas envisager, ne pas se dire on sera complémentaire parce qu'il va changer. Non, ça ne marche pas ça. Non, non. Toi, tu peux changer pour toi. Tu peux travailler. L'autre aussi peut changer pour lui-même. Et tu peux le conseiller, l'aider. Mais n'envisage pas qu'il va changer totalement pour toi. Ou, autre idée, mettre en avant la sexualité. Aujourd'hui, on entend souvent qu'il faut d'abord savoir si on est complémentaire au pieu. Et c'est faux. Comme l'a dit quelqu'un, aimer, ce n'est pas se coucher ensemble, c'est se lever ensemble. L'intimité sexuelle est un plus lorsque la relation est déjà forte, lorsqu'il y a un engagement ensemble. Si la sexualité passe d'abord, qu'est-ce qui restera de la relation de couple lorsque l'aspect de la découverte de la sexualité partira, sera plus là? Non, il faut connaître l'autre, chercher à connaître sa complémentarité avec l'autre. Mais en pratique, comment faire pour savoir si on est complémentaire l'un envers l'autre? Je te suggère deux pistes à explorer si tu es fréquente. Première piste, observe celui ou celle que tu aimes. Observe-le dans un contexte public, observe-le dans un contexte privé. Regarde comment il traite sa propre famille. Regarde comment il traite ses amis. Regarde comment il traite ceux qui sont meilleurs que lui. Regarde comment il traite ceux qui sont moins bien que lui. Pourquoi ? Parce qu'il va agir exactement de la même manière avec toi. S'il est orgueilleux par rapport à celui qui est faible, quand tu seras en position de faiblesse vis-à-vis de lui, il sera orgueilleux et te mettra plus bas que terre. S'il est en jalousie dès qu'il est avec quelqu'un qui est plus fort que lui, le jour où tu feras preuve, tu seras meilleur que lui dans un domaine ou l'autre, il te jalousera. Observe ces choses-là. Deuxième idée, construis des projets à deux. Ça peut être dans un service dans l'église, ça peut être dans une œuvre, ça peut être plein de choses. Avec Manu, on a fait beaucoup, beaucoup de colonies de vacances en tant qu'animateur. C'est dans ce cadre-là aussi qu'on s'est rencontrés. Par la suite, ça a permis de nous voir dans des projets où on a construit des choses ensemble. On a pu faire beaucoup de choses ensemble dans cet aspect-là. Ça peut être plein d'autres choses, mais construisez des projets à deux. Testez votre complémentarité pendant ce temps de fréquentation. Ça ne fera que confirmer les choses pour l'un et pour l'autre. Dernière question à se poser. Est-ce que tu t'imagines le futur avec lui? Luc 13, verset 9. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Tu vas passer tout le reste de ta vie avec lui, avec elle. Ça peut être quelque chose comme 50, 60, 70 ans peut-être, avec la durée de vie qui augmente. C'est extraordinaire. Mais la dernière question à te poser, c'est de savoir si tu t'imagines dans le futur avec lui, avec elle. Est-ce que dans votre relation, est-ce que tu t'imagines avec lui dans un appart à le voir tous les jours? Quand ça va bien, mais aussi quand c'est plus dur. Quand il s'est fait tout beau sur son 31, mais aussi quand il se lève les cheveux en pétard. Est-ce que tu l'imagines comme le père, la mère de tes enfants? Est-ce que tu l'imagines vivant? Est-ce que tu t'imagines vivant tes vieux jours à ses côtés? Est-ce que vous avez aussi, question essentielle, une vision commune au niveau de la foi? Et ça, c'est une question importante en tant que chrétien, parce qu'on peut être tous deux chrétiens et avoir une vision différente. Si l'un a comme projet de partir missionnaire je ne sais où, je prends un cas extrême on va dire, guillemets, et que l'autre n'envisage pas du tout ça, peut-être que ce n'est pas la bonne personne. Je ne dis pas que c'est forcément pas la bonne personne, mais peut-être. Est-ce que vous avez une vision commune de votre engagement en tant que chrétien? Et pour cela, pour répondre à toutes ces questions, il faut discuter de ces projets futurs à chacun. C'est la conception de la vie au futur. Comment tu te vois dans 5, 10, dans 20 ans? Qu'est-ce que tu espères de la vie? Si tu ne le fais pas, tu prends de gros risques. Le risque de te louper, de te rendre compte 10, 15, 20 ans plus tard, fait, non, tu t'imagines pas le futur avec lui. Ça peut être dur aussi. On a posé 5 questions avant les fréquentations et 5 questions après les fréquentations. Alors j'ai tiré une quarantaine de papiers, j'ai peur qu'il n'y en ait pas pour tout le monde, mais j'en réimprimerai, je publierai ça au responsable. Avec ces 5 questions, si vous pouvez juste passer pour en prendre un chacun. Et j'espère, je prie que ce soit 5 questions que vous puissiez, si vous êtes en attente, avant de démarrer votre fréquentation, vous fréquentez, 5 des questions que vous puissiez vous poser et que vous puissiez vraiment remettre devant Dieu. On a fini pour la partie un peu plus exposée, on va dire, plutôt. Et on va avoir un temps de questions-réponses, de discussion à travers les questions que vous avez posées par le téléphone, via le téléphone, je vous remercie pour ça. Et à travers d'autres questions aussi, que ça a pu susciter un peu ce partage. Les gars, on va en bas, moi, je propose.